bonjour tout le monde.
Enfin, Spectaculaire est de retour. Mercredi 23 septembre 2020, émission 224. Christophe Rollin au micro, Gérald est avec nous, ainsi que nous avons un invité, il est bien revenu. François Yen, rappelez-vous, c'est lui qui presque ouvrait cette année 2020. Il était venu le mercredi 15 janvier. Il vient pour un autre spectacle dont je vais lire quelques lignes dans la brochure des Célestins. Alors que vous allez voir, on va plutôt parler de l'opéra. Et pourtant, on parle d'un... Oula, ça part dans tous les sens. Ce projet réalisé de 2019 à 2021 consiste à créer une fresque théâtrale musicale. Le sujet est une histoire des canuts réinterprétée à la lumière des problématiques du travail et de l'insurrection aujourd'hui, qu'une longue enquête participative nous aura permis de faire émerger. C'est François donc qui va en parler parce qu'il c'est l'harmonie communale qui est responsable de ce projet. C'est donc une compagnie qui est associée au Célestin. Donc on parlera un peu des Célestins, d'autant plus que ce samedi 26 septembre il y a une grande journée qui va s'y dérouler. Marie qui est présente va nous parler plutôt de l'opéra, car l'opéra est à l'origine de ce projet. Et oui, je l'ai bien dit, fresque théâtrale musicale. C'est un peu confus, écoutez, vous allez voir, tout va bien se passer. Commençons avec Colette Mani, parce que le titre est très bien trouvé, hein. Encore une fois, merci Gérald, coopération, ça va pouvoir lancer. Il est 14h05, on a un petit peu de retard, mais on va bien terminer à 15h, puisque une autre émission commencera ensuite. Vous nous écoutez, vous le faites très bien, hein. Si c'est à Lyon, sur le 102.2 de la bande FM, et si c'est sur internet, c'est radiocanu.org.
Sartre, Suarez, Carlyle, Alain. Les cris qui se savent inécoutés enveloppent un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humain sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, et vouloir, tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Paix sur la terre aux hommes.
François, enfin je vous en prie, François, Marie.
Ben, merci Christophe, nous on est évidemment ravis d'être là, effectivement comme vous l'avez rappelé, j'étais venu en janvier pour parler d'Olivier Masson, Doit-il mourir, qui joue au Théâtre des Célestins, et peut-être qu'on peut révéler un tout petit peu les coulisses, pour une fois, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, mais là c'est moi qui vous ai sollicité pour refaire une émission, parce qu'on se lance dans une année qui va être assez chargée, assez ambitieuse autour de ce projet que vous avez évoqué là en introduction, Écho de la Fabrique. Et c'est un projet qui comporte une part de, enfin qui repose sur une logique participative. C'est-à-dire qu'on va lancer beaucoup d'ateliers, on va essayer de vous expliquer un peu tout ça. On lance beaucoup d'ateliers pour lesquels on cherche à recruter des participantes et des participants. Chaque atelier ayant un thème propre, des encadrants différents. Et chaque atelier conduisant à un des tableaux du spectacle. À la fin, ce qu'on fait, c'est un grand spectacle, donc sur la grande scène du Théâtre de la Renaissance en mai 2021. Mais d'ici là, on aura vécu plein d'étapes avec des gens très différents. Pour les ateliers, on cherche à les remplir en travaillant en partenariat avec des structures partenaires. Je rentrerai un peu dans le détail après. Mais on cherche aussi à faire en sorte que des gens, de leur propre initiative, puissent décider de s'inscrire à tel ou tel atelier, parce qu'ils ont envie de de réfléchir avec nous sur les thèmes qui sont au cœur de cet atelier, et puis de faire des exercices d'improvisation, d'aller vers le théâtre progressivement et de s'intégrer au spectacle. Et c'est pour ça que cette émission, on se le disait tout à l'heure en antenne, cette émission de janvier s'étant hyper bien passée, je me disais bah, peut-être ce serait chouette d'en refaire une afin de profiter de l'antenne de Radio Canu pour expliquer un peu ce principe d'atelier et peut-être donner envie à des personnes qui nous écouteraient, que ce soit en direct sur la bande FM ou sur internet, de
en rediffusion.
Voilà.
Par quel biais le faire ? Sur le site, c'est possible, hein, c'est ça ?
Oui.
Sur le site Harmonie Communale,
c'est celui-ci ? Sur le site, non. Il y a un site dédié au projet qui s'appelle Écho de la Fabrique. Écho, au pluriel, de la fabrique.org, tout attaché. Écho de la Fabrique. Point net.
Merci Marie de la précision. Alors, ça a son importance, mais je mettrai le lien sur le blog, donc comme ça tout sera précisé.
Voilà, donc ça c'est la raison de notre présence ici, et après je pense qu'on va rentrer un peu dans le détail, puis parler un petit peu du spectacle et ce qu'on cherche à y faire. Mais effectivement, comme vous l'avez dit en intro, j'ai proposé à Marie Évreux de venir, qui est au fond l'initiatrice du projet, qui travaille, qui co-dirige le développement culturel à l'Opéra de Lyon. Et qui a été à l'initiative du projet, mais on se disait que peut-être Marie pouvait commencer à nous expliquer un peu pourquoi le projet à l'origine et ce qu'ils en attendent.
Alors à l'initiative, pas du contenu, mais en tout cas de l'invitation avec ma collègue Naïs Bédia, on était à l'initiative de l'invitation de François, parce que au service développement culturel de l'Opéra, on conduit depuis de très nombreuses années maintenant des projets qu'on dit participatifs. C'est pas un très joli mot en fait, c'est... Mais bon, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre ensemble, de faire travailler ensemble des gens autour d'un objet de création qui peut être un spectacle, un film, un enregistrement musical. Mais en tout cas, ce qui nous importe, c'est de créer des espaces et des moments pour organiser des rencontres autour de la création qui s'adresse à tous, ou en tout cas à beaucoup, beaucoup de gens. Et du coup, on s'est un petit peu intéressé au travail de François, notamment au travail qu'il avait pu mener avec le collectif X, et on s'est dit qu'on avait envie de travailler avec lui parce que on a essayé de rassembler, alors pour plein de raisons, plus ou moins légitimes, de rassembler tous nos projets participatifs sous un même chapeau pour essayer d'expliquer plus clairement ce qu'on fait. Et on s'est dit que ce qu'on faisait, c'était donner justement des espaces pour que les gens s'expriment individuellement et collectivement. Et que du coup, voilà, on a passé une commande très floue à François en disant « on aimerait bien travailler avec toi autour d'un projet, autour de la thématique de l'expression ». Et c'est à partir de là que tu nous as proposé un projet sur les canuts.
Concrètement, comment est-ce que vous lui avez mis la main dessus ? C'est que pour je ne vais pas revenir au portrait qui avait été très bien fait en janvier de cette année, mais vous sortez de Paris. Voilà, ça arrive. Mais vous avez une jeunesse rioise,
riarde,
riarde. C'est très bien. Rieux-la-Pape qui est donc à côté. Et ensuite, vous passez à Bruxelles pour faire du cinéma. Et si vous arrivez dans le monde du théâtre, c'est parce que la pièce, enfin. L'événement médiatique, enfin, comment qualifier le fait divers, non, je crois qu'aucun mot de marche. L'affaire Babylou vous fait donc, vous amène à vous renseigner, à mener une réflexion, et ce qui aurait dû être un film devient en fait une pièce de théâtre. Mm-hmm. Et à partir de là, enfin voilà, vous mettez le pied dedans comme Obélix, vous tombez dans la marmite du théâtre, alors que vous étiez plutôt un grand cinéphile, un Stoker ou d'autres, je ne sais plus quel film encore vous avez pu voir à l'impasse Saint-Polycarpe, le cinéma, je crois qu'il s'appelle le cinéma, me semble-t-il. C'est un nom très, il est pas très loin, je suis encore passé à côté. Donc voilà, vous êtes tout de même dans le théâtre, et donc Marie commence, parce que il commence à devenir un peu une figure locale, incontournable, j'ai l'impression, François.
Oui. Incontournable, tout court, sans local. mais malgré ça, il est encore investi dans plein de projets, dont certains de dimensions plus modestes. Et je crois qu'au départ, je crois que le tout début, ça a été quand tu as travaillé sur le projet avec la compagnie Eolo.
Tout à fait.
Qui est une compagnie locale avec qui on travaille sur des projets qui concernent plutôt des enfants. Des enfants, enfin à l'école d'ailleurs, des écoliers plus précisément, et du coup c'est là que Naïs t'a rencontré et qu'elle s'est dit tiens, il y a peut-être matière à faire quelque chose avec François. Voilà.
Gérald, on le redit encore une fois, la pièce Olivier Masson doit-il mourir, ça a été une sorte de claque, quoi. C'était la réouverture de la Célestine en janvier dernier, il y a une énorme force, le texte à la fin en plus qui était lu en ajouté, mais Enfin, ça ne savait plus, non oui. J'invente, Gérald.
Non, non, pas du tout. Il faut réécouter l'émission numéro
216, je crois.
Waouh.
Donc, il y a quand même, il y a un vrai truc, hein. C'est ça, tout de même, Marie. Il faut peut-être le dire, auditeur, auditrice. C'est pas, vous n'êtes pas allé, allez, hop, on trouve quelqu'un qui a l'air correct. Toujours un petit peu gênant, François, mais il y a du talent. Enfin, il y a quelque chose. Il y a une vraie personne, une vraie personnalité. Et, ouais. Et un propos.
Et puis précisément pour ces projets-là, on cherche un talent artistique, mais aussi une certaine qualité de relation qui ne va pas toujours avec le talent, malheureusement. Mais
paf, hop, c'est envoyé, voilà.
Ça c'est dit.
Mais voilà, parce qu'on cherche, enfin, ce qui compte pour nous dans ces projets, c'est au moins autant le processus que le résultat. Et du coup, ce que les artistes vont apporter aussi dans la relation quotidienne avec les participants nous importe énormément. Donc quand on va à la rencontre comme ça d'artistes, on cherche aussi à saisir ça, à saisir si vraiment la curiosité est, comment dire, partagée quoi des deux côtés, qu'il y a un vrai intérêt pour les gens avec qui on va vivre une grande aventure, parce que souvent les projets participatifs c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, donc là en l'occurrence celui-là dure 2 ans, on attaque la deuxième année, donc il faut avoir un intérêt sincère pour les gens qu'on rencontre.
La spécificité de ce grand projet coopératif, c'est pour ça qu'on écoutait Colette Mani, coopération au début d'émission, ouais. Au lieu de participatif, mais c'est un peu
c'est
pareil,
bien coopératif.
Avec toutes les institutions, vous les avez nommées, hein, l'Opéra, le Théâtre des Célestins, le Théâtre de la Renaissance et d'autres institutions. La spécificité, c'est que le texte qui donnera matière à ce spectacle n'est pas encore écrit finalement.
Tout à fait, oui. C'est ce qui me donne un peu une sensation de vertige d'ailleurs, parce que moi d'habitude, là vous avez évoqué Olivier Masson, moi je suis quand même quelqu'un qui écrit. Et c'est encore, au fond, maintenant je mène un travail de compagnie, c'est-à-dire qu'on commet en scène les spectacles toujours, je suis pas metteur en scène, ça c'est une chose qui est certaine, mais on commet en scène avec la distribution en général, je joue dedans, enfin voilà, mais c'est encore, si on me demande quel est mon métier, je dis encore auteur. C'est encore par le texte que j'ai l'impression encore que je fais un théâtre qui découle du texte quand même, et que l'endroit où je cherche le plus, c'est l'endroit du texte. Et en général, je suis un peu... Je me sens un peu en sécurité quand on fait des créations, parce que le texte est écrit, que les moments très douloureux, je les ai vécus solitairement en amont pour sortir la chose. Enfin, très douloureux, pas toujours d'ailleurs, mais parfois. Mais en tout cas, quand on se lance dans la création, il y a le texte, quoi. Il y a le texte comme un filet de sécurité. Alors là, c'est pas le cas, effectivement, et ça change tout. Je sais à peu près comment il va... Enfin, on a une méthode hein, pour que le texte émerge. L'année est à peu près préécrite, quoi. On sait à peu près à quel moment il faut que tel passage de la pièce ait émergé. Mmh. Mais c'est sûr qu'on se lance un peu plus dans l'inconnu. Je me permets de préciser 2 trucs par rapport à ce que tu as dit avant. D'abord, effectivement, cette rencontre, et peut-être ça vaut le coup de le dire, mais c'est donc grâce à la compagnie Eolo et à Martine Mérieux, qui est une ancienne amie à moi. Enfin, une ancienne amie, non pas que ce soit plus mon amie, mais une amie de longue date qui pilote ce projet avec l'opéra depuis des années, et grâce à qui du coup je vous ai rencontré, donc voilà, c'est comme grâce à elle. Et puis le fait que cette dynamique collective qui vous a séduit sans que vous nous connaissiez encore, c'est quand même en grande partie le collectif X. Nous on s'est rencontrés et puis très vite vous avez pu voir les pièces que j'avais écrites, mais il y a le collectif X derrière, qui est cette compagnie stéphanoise que moi j'ai intégrée en 2016, qui est à la base née d'une promotion, d'où son nom, c'est la promotion X de l'école de la Comédie de Saint-Étienne.
La 10e, c'est ça alors ? Oui, c'est le...
Alors non, je vous laisse calculer, c'est parce que les promos avaient des lettres.
Ah, d'accord.
Et donc c'était la X. Donc il y en a
la 4e, non, c'est ça ? S'il y a 26 lettres dans l'alphabet, c'est...
Ouais, je dirais ça. Mm-hmm. Et maintenant, ils sont passés au numéro maintenant.
Ah, bah, très bien, finalement. Mais en chiffre romain, c'est ça.
La 29 vient de sortir. Qui sont super d'ailleurs, les 29. Donc la promo X, voilà. Et donc à la base, c'est cette promo, mais maintenant, c'est beaucoup plus de gens hein, qui se sont agglomérés progressivement à la compagnie. Et qui a initié beaucoup de projets de ce type-là auxquels moi j'ai pu me joindre. Et ça a été une rencontre très très forte entre cette compagnie et. Et moi, vraiment, on a très très vite travaillé très densément. C'est vraiment grâce à eux que, en fait, je suis devenu un professionnel du théâtre, parce que j'ai commencé à écrire cette pièce, La Crèche, mais très tôt, je les ai rencontrés, et c'est parce qu'ils m'ont embarqué sur leur projet que j'ai pu faire basculer mon activité. C'est très récemment que l'activité née de mes propres textes me fait vivre. Il a fallu que cette période de transition où j'ai beaucoup travailler sur leur projet. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique très collective et qui vient d'eux. Et donc, le projet Écho de la Fabrique est co-porté par le Collectif X et l'Harmonie Communale que vous avez évoqué, qui est la compagnie qui portait déjà Olivier Masson. C'est un peu compliqué tout ça.
Ça fait beaucoup de gens tout ça.
Ouais,
et il n'y a pas encore les inscriptions dans les divers ateliers et les jeux de rôle. J'ai cru noter dans votre note d'intention, enfin le résumé du projet.
Une newsletter, c'est ça?
Ouais,
c'est
une newsletter auquel on abonnera les gens. Non, ils vont s'abonner tout seuls.
Peut-être ce que je pourrais faire, c'est j'en fais un PDF et je le mets sur le blog. Voilà, comme ça, ceux qui veulent le lire, ils n'ont qu'à cliquer dessus. Elle est vraiment bien troussée. Il y a des remerciements qui sont très, très chaleureux à la fin. C'est très bien.
Il est même question de faire appel à une troupe de marionnettistes spécialistes. Donc il y a une scène déjà qui va faire intervenir des marionnettes.
Alors non, on va pas faire venir des marionnettistes. On va faire venir Emma Hughes, qui est la directrice du
théâtre de Guignol.
Oui, directrice. Oui. Enfin, elle dirige une compagnie qui est en charge du théâtre du Guignol de Lyon et qui va venir nous apprendre un petit peu, non pas tant à manier les marionnettes, parce que c'est un métier et ce serait présomptueux de notre part d'imaginer qu'on peut
apprendre
l'acquérir en deux jours. Là il s'agit vraiment d'abord de nous apprendre un peu l'histoire de Guignol, comment est-ce que, parce que Guignol était un
ce sont ces années-là, je vérifie encore ça, Laurent Mourguet meurt en 1844,
contemporain de la révolte des Canuts, et surtout c'était un chansonnier, c'était vraiment quelqu'un qui chroniquait à la semaine ce qui se passait, et il y a certaines scènes qu'on n'aura pas les moyens de reconstituer. Par exemple des scènes de bataille et tout ça. On va trouver des subterfuges pour les raconter, mais les raconter par la manière dont les gens les racontaient, vous voyez.
À de l'époque.
Et donc on va voir. L'idée c'est pas tant de faire une scène de marionnette que de faire une scène de marionnettistes qui sont en train de se poser la question comment est-ce qu'on raconte ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on en raconte, qu'est-ce qui passera à la censure, qu'est-ce qu'on peut pas relater, vous voyez. Donc voilà. Mais peut-être.
C'est ce que je suis en train de dire. On est en train d'entrer tout doucement dans le projet. Je voulais lancer une dernière question avant une pause musicale pour nous faire vraiment entrer. C'est une question en plus qui amènerait la transition, je crois. C'est pourquoi ce nom? Question qui n'avait pas été posée en janvier de cette année. Pourquoi ce nom d'harmonie communale? Mais il me semble qu'il y a quelque chose, Gérald, pour ce qui est commune ou école de la fabrique. Et puis peut-être, ça pourrait nous amener à la deuxième partie qui serait donc davantage présenter le projet lui-même. Parce que là, c'est très bien. Nous sommes sur donc des aspects originels ou techniques. Mais ensuite, il faut qu'on entre dans les ateliers. Il faut les intituler des ateliers. Il faut également peut-être une forme d'intrigue, à défaut d'intrigue du spectacle, une intrigue historique.
Raconter les années
novembre 31, avril 34, je crois, c'est ça. Et puis le journal de école de la fabrique qui continue un petit peu encore 1935. Et puis Gérald, tu nous trouves la pause suivante. Donc, François Yen, pourquoi ce nom de cette compagnie, l'Harmonie Communale?
Eh bien, l'Harmonie Communale, c'est une compagnie qu'on a créée avec Nicolas Lujon. Et en fait, alors pourquoi ce nom? C'est vraiment une évidence. Il y a plein de raisons à ça. Moi, j'adore les harmonies, les fanfares.
Les fanfares de village, quoi.
Les fanfares de village, précisément. Les harmonies communales, je trouve ça toujours très touchant, très beau. Ça raconte quelque chose de. C'est souvent des gens qui s'efforcent de faire pour le mieux, faire des belles choses ensemble pour le mieux. C'est très dans un esprit très coopératif.
Enfin, c'est quelque chose un peu de la même époque. Moi, je pense à l'harmonie du Familistère de Guise, de Godin.
Oui,
il y avait le théâtre municipal.
Oui.
Avec du théâtre, l'harmonie.
Ouais. Mon grand-père jouait dans une harmonie dans le Nord. Il était du Nord. Et enfin voilà. C'est quelque chose qui m'évoque quelque chose de très sympathique, l'harmonie communale, et qui correspond au, je crois, à l'esprit du travail dans lequel on est. Et puis, il y a dedans, il y a l'harmonie, le mot harmonie, il y a le mot communal.
Oui. Bon, il y a tout un tas de
résonances qui nous plaisent beaucoup, évidemment.
Il faut pas parler des majorettes, on va se faire incendier, là.
Non, allez-y si vous voulez, on vous laisse.
La commune, 1870, c'est ça? Nous, auditeurs auditrices, on va plutôt dans quelques instants, on va être transportés en. Avril? Non, le journal commence en juillet, peut-être, je crois. Il commence un petit peu avant.
En 31, plus tard que ça. En septembre-octobre, je crois.
Vraiment? Mais il commence
un peu de temps avant.
Avant la révolte. Avant les 22, 23, 24.
Très peu de temps.
Ou 21, 22, 23 novembre.
Oui,
31, je ne sais plus très bien. Donc, auditeurs, auditrices, on va entrer dans ce spectacle qui s'appelle Écho de la Fabrique. C'est le nom de ce journal également des Canuts. Mais avant cela, Gérald, une petite pause musicale, un petit instant musical. Peux-tu l'introduire peut-être?
Révolutionario. Quatre saxophones qui reprennent un grand standard d'Astor Piazzolla, que vous allez tous reconnaître, bien sûr. Mmh. Lettre 2, écho de la fabrique. Chers amis, IES, voici la deuxième newsletter écrite par François Yen, ici présent, au nom de l'harmonie communale. Le 27 mai 2021, si l'épidémie nous le permet, nous vous recevrons dans la grande salle du théâtre de la Renaissance à Oullins. Vous prendrez place dans une ambiance brillante. Des spectateurs parleront les uns avec les autres, des vendeurs vous proposeront à manger. Une personne montera sur scène pour annoncer le titre de la pièce qui s'apprête à être jouée. Il en profitera pour remercier le préfet de Lyon, Bouvier du Mollard, d'être présent dans la salle, ainsi que quelques éminents négociants de la ville. Peu à peu, vous comprendrez que vous n'êtes plus au théâtre de la Renaissance d'Oullins, mais au Grand Théâtre de Lyon, en 1831. La représentation commence. Le jeu relève d'un théâtre d'emploi tel qu'il avait cours jusque dans les années 1830, mais retravaillé et subverti par une tendance romantique. La salle reste éclairée et de nombreux spectateurs continuent à discuter. Soudain, un grand bruit en fond de salle. Deux hommes et une femme interrompent la représentation. Ce sont deux apprentis et un chef d'atelier, des canuts. Ils savaient le préfet présent à cette représentation. Ils l'interpellent. Sait-il que l'accord négociant sa présence sur l'instauration d'un tarif n'est pas appliqué par les soyeux ? La troupe s'est interrompue. Un des comédiens propose au canut de s'exprimer depuis la scène. Les négociants, outrés par l'interruption, entament un chant pour couvrir les revendications des canuts. Les canuts entonnent un chant concurrent. La cacophonie est totale.
Alors là, ce que vous venez de lire, c'est le début d'une newsletter que j'ai adressée à des gens qui nous suivent. pour raconter un peu le projet qu'on s'apprête à mener. Et donc ce sera la première scène du spectacle. La première scène du spectacle, c'est ça. C'est
elle est écrite, celle-ci.
Alors, non, elle n'est pas écrite
non,
en
non.
détail.
Non, mais alors, elle est prévue. Voilà.
Quand je dis que rien n'est écrit, ce n'est pas tout à fait vrai. On a une sorte de premier séquencier, qui ne va d'ailleurs pas au bout de la pièce, mais c'est grâce à ce séquencier que, précisément, on a pu construire le programme d'atelier. Puisqu'en fait, la pièce fonctionne par tableau, et chaque tableau exige un atelier qui y mène. En fait, chaque atelier mène à la constitution d'un tableau théâtral auquel participeront les amateurs et les amatrices qu'on aura pu mobiliser sur le projet. Donc là, typiquement, par exemple, on a cette première scène où on arrive on est un soir de représentation au Grand Théâtre de Lyon et on a une troupe de théâtre du 19e, à la manière des troupes de théâtre du 19e, eh bien, on a un de nos ateliers qui consiste à créer cette troupe qui reviendra plusieurs fois dans le spectacle. Donc on aura des participants du projet qui vont travailler, parce que chaque atelier est à la fois le lieu d'un c'est un temps de recherche, un temps de débat, un temps d'improvisation documentée où on va beaucoup fournir de matière aux participants pour qu'ils puissent se lancer en improvisation de manière un peu informée et progressivement dégager des enjeux, des dialogues, des personnages, et puis passer à un texte écrit qu'ils vont finir par apprendre et interpréter vraiment, faire un travail de mise en scène à partir de ça. Donc on a des participants qui vont constituer cette troupe du 19e. Si vous le permettez, peut-être je peux revenir en amont et expliquer pourquoi donc les Canuts. Et d'où vient cette idée? Pourquoi est-ce qu'on a suggéré ça en réponse à la commande
ou la demande
de Marie et Naïs? En fait, moi, ça faisait un moment que l'histoire des Canuts me fascinait. Le petit livre de Fernand Rude que vous nous m'avez montré tout à l'heure, puisque vous l'avez emprunté aujourd'hui même à la bibliothèque.
Comme d'habitude. Du troisième, elle est très très bien. Fernand Rude, à la révolte des Canuts, 1131-1134.
Voilà. Alors moi, c'est un petit livre que j'avais lu il y a quelques années à Paris, et je m'étais dit, là, ce serait formidable de faire. À l'époque, j'envisageais un film, évidemment. À l'époque, c'était ça mon métier. Et je me disais, mais ce serait génial de faire ça. Mais par contre, je l'envisageais déjà à la manière dont on s'apprête à le faire au théâtre, c'est-à-dire en mobilisant des groupes d'amateurs, en mobilisant... Alors, à l'époque, je me disais, peut-être que j'étais effectivement très influencé, vous en avez parlé en tête tout à l'heure.
Ah non, c'est
vous.
Peter Watkins.
Très influencé par Peter Watkins et la commune. J'envisageais
Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je ne connais pas ça.
C'est un grand film de 8 heures, c'est ça? Il est très long, 5 heures,
ouais.
Avec des comédiens non professionnels.
Oui.
En noir et blanc.
Quelle année? Années 90, 80?
C'est 2003.
Oui. Ah bon? Mais c'est magistral comme mise en scène. Hein. Il y a une dimension de reconstitution.
C'est une sorte de jeu de rôle. C'est une sorte de jeu de rôle.
Ouais, c'est ça.
C'est une sorte de jeu de rôle. C'est-à-dire que ils ont fait ça en 2 semaines. Ils sont enfermés dans le lieu d'Armand Gatil à Montreuil. Et ils ont monté 3 bouts de décor. Et en fait, ils se sont lancés dans une sorte d'énorme improvisation continue.
Voilà. Avec des éléments quand même. Enfin, avec du...
Alors, ils avaient tous énormément travaillé en amont. Pour se documenter sur la commune, etc. Mais c'est presque autant un documentaire sur le monde militant contemporain. Parce que c'est beaucoup des militants qui ont été mobilisés, des activistes. Et on a parfois la caméra dérive pendant 20 minutes en passant d'un groupe à l'autre. Mmh. Et tout le monde est en ébullition, tout le monde est en débat.
C'est très fort.
Et on a l'impression qu'il se passe constamment 15 choses en simultané et que la caméra grappille 2% de tout ce qui se produit dans cette espèce d'énorme jeu de rôle grandeur nature.
Oui. Cette dimension vous intéresse, non, François Yann, le fait qu'il y ait un propos dans votre spectacle à vous, et manifestement je suis en train de le comprendre dans ce film aussi, un propos sur le monde contemporain, sans que ce soit non plus quelque chose de tout à fait recherché, et vous l'évoquez dans cette newsletter justement.
Tout à fait, oui, mais pas tout à fait de la même manière que Watkins. Disons que Watkins...
Watkins, c'est plutôt vous. Que Watkins.
Hein?
Plutôt éventuellement ce que vous faites, vous, plutôt que. Auditeur et auditrice, allez voir ce film si vous pouvez.
Et il est empruntable à la bibliothèque de la Part-Dieu.
L'idée, c'est. Parce que moi, j'ai trop peur que, à traiter à la fois complètement les Canuts et à la fois complètement le monde d'aujourd'hui, on finisse par rien traiter du tout. Et l'idée, là, c'est vraiment de traiter l'histoire des Canuts. De faire le pari que cette histoire des Canuts, elle est passionnante. Et que, en suivant le déroulement, en fait, ça crée des résonances très fortes avec aujourd'hui, mais pas spécialement aller les chercher par la peau du cou, ces résonances. Plutôt se dire qu'elles vont monter d'elles-mêmes. Elles vont monter d'elles-mêmes naturellement parce que, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on fait un gros effort de reconstitution des mentalités et des enjeux. Ce qu'on fait en atelier, c'est ça. C'est essayer de comprendre les mentalités et de se positionner au niveau des enjeux que traversaient les gens. Par contre, on ne fait aucun effort de reconstitution sur le langage.
Mm-hmm.
Le langage sera le nôtre.
Oui.
Vous voyez, les improvisations, on les fait avec notre langage. On n'essaie pas de décaler notre vocabulaire.
Actualisation forcée, quoi.
Voilà. Peut-être même qu'on va adapter du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont des patentes. Vous voyez, des vocabulaires un peu
techniques,
un peu datés. Voilà, et on se dit, si on veut rendre ce mot beaucoup plus fluide pour nous, quel mot on choisirait aujourd'hui, vous voyez ? Peut-être même qu'on va adapter des choses comme ça.
Est-ce que le mot ubérisation apparaîtra ? Pas certainement.
Alors, l'ubérisation...
Il y a un peu de ça.
Oui, bien sûr. Alors, c'est ça que je vais raconter sur les canuts. C'est-à-dire qu'une de mes premières intuitions sur les canuts, c'est ça, c'est de se dire...
On a rattrapé le fil, c'est magnifique.
Voilà. ce sont des travailleurs indépendants qui sont propriétaires de leur outil de travail, qui sont dans un rapport de subordination avec un donneur d'ordre, un commanditaire, qui n'est pas leur employeur. Qui ne sont pas dans le salariat. Payés à la pièce. Qui sont payés à la pièce, mais qui n'ont aucune espèce de pouvoir de négociation pour l'établissement du prix de la pièce, qui sont vraiment complètement dans une espèce de face-à-face extrêmement défavorable.
Et aucune protection sociale.
Évidemment, aucune protection sociale, etc. Donc, il y a quelque chose qui, évidemment, nous fait immédiatement penser aux travailleurs ubérisés d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est une résonance très forte. Alors après, il faut s'empresser de dire qu'il y a aussi des différences fondamentales. Les canus, ce sont des gens qui ont un métier, qui sont dans une corporation professionnelle puissamment structurée, qui ont un long temps d'apprentissage, à l'issue duquel ils font ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Donc je pense que les travailleurs ubérisés d'aujourd'hui n'ont pas le sentiment d'avoir un métier.
Ils ont commencé dès l'âge souvent de 8 ans parce qu'ils étaient petits pour aller vérifier les métiers sous les plafonds en bois.
Il y avait cette idée, c'est une formule que j'utilise souvent, mais j'avais l'impression que peut-être les canuts, c'est vraiment le début du mutualisme, le début du syndicalisme. C'est en amont même du salariat, et je me disais c'est comme s'il y avait une histoire du droit du travail et que eux étaient à un certain versant en amont, que nous on était sur un certain versant en aval, mais que peut-être les niveaux se rejoignaient. Vous voyez, alors bon, on n'est pas dans une situation où le droit du travail n'est pas détricoté au point d'être revenu à ce qu'il était en 1831, mais enfin il y avait cette idée là quoi. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de trop forcer le parallèle. Il se fait naturellement parce qu'il y a des espèces de résonance objective. La monarchie de Juillet, donc qui naît de la révolution de 1830, sous le roi Louis-Philippe.
Charles X.
Charles X.
De l'interdiction de l'article de la liberté d'expression de la presse,
voilà,
qui a déclenché, ça a été un déclic. En fait.
Voilà, donc Charles X est déposé en 1830, remplacé par le cousin de la branche orléaniste, et on rentre dans une monarchie très libérale. C'est pour ça que l'écho de la fabrique peut exister, hein. C'est parce qu'il y a les lois sur la liberté de la presse. Il y a bien des aspects par lesquels la monarchie de Juillet est progressiste. Mais elle est extrêmement liée aux puissances d'argent. C'est essentiellement la grande bourgeoisie qui a fait la révolution en 1830. Donc on a une espèce de monarchie libérale et progressiste.
En termes sociaux, mais
complètement
capitaliste.
Inféodée aux puissances d'argent. Et ce qui est extrêmement flagrant. Alors, voilà, chacun conçoit les résonances qu'il a envie avec aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir à cet égard. Et notamment, la manière dont tout part pour l'histoire des canuts, c'est-à-dire que les canuts réussissent par un tour de force, sans violence, à obtenir une négociation avec les négociants, précisément, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, les soyeux, ceux qui trouvent les débouchés commerciaux, qui achètent la matière première et qui fournissent les modèles aux canuts, qui les font fabriquer. Ils réussissent à obtenir une négociation présidée par le préfet, enfin chapeautée par le préfet Bouvier du Moulard, là, celui qui est évoqué dans le petit texte que vous avez lu. Et Bouvier du Moulard, il tombe d'accord sur un tarif, c'est-à-dire un tarif en dessous duquel il n'est pas possible de réaliser des pièces. Et les négociants finissent par revenir sur leur engagement,
trahison.
C'est-à-dire qu'ils ont signé, et ils obtiennent du gouvernement central, du gouvernement de Louis-Philippe, l'annulation du tarif. Pas tout à fait l'annulation d'ailleurs, mais le gouvernement dit en fait ce tarif il est simplement indicatif, il n'est pas contraignant, donc
faire ce que
gros,
vous
faites ce que vous voulez. Quoi. cette manière qu'a le pouvoir de prendre parti dans les arbitrages, toujours en faveur du fort, je pense que c'est quelque chose quand même qui ne nous est pas complètement étranger.
Non.
Donc,
c'est un euphémisme.
Voilà. Il y a ce type de résonance. Et puis donc il y a cette histoire des canuts qui me fascinait parce que c'est vraiment une révolution. D'abord c'est une révolution qu'on entend, dont on parle assez peu. malgré tout. Alors à Lyon, plus qu'ailleurs évidemment, mais à Lyon justement on en parle d'une manière qui la met un peu à distance, ça devient une chose un peu
folklorique.
Folklorique, un peu muséifiée, un peu poussiéreuse. Et je m'empresse de dire que précisément dans ce qu'on va faire, on cherche à complètement se défaire de ça, à essayer de sortir complètement de l'imagerie canuse un peu surannée qui fait qu'on a l'impression de connaître et qu'on en connaît suffisamment et qu'on n'a pas envie d'en savoir davantage. Là, l'idée, c'est de rendre la chose extrêmement présente et actuelle. Et donc, une des choses qui me fascinait, c'est cette révolte extrêmement coordonnée, en fait, extrêmement organisée, où donc ce qui se passe dans celle de novembre 31, celle qui nous intéresse, parce que oui, vous avez parlé de celle de 34, mais finalement
elle est sanglante, hein, et puis ça termine
mal. Elle est sanglante, et d'autres pièces n'en parlera pas.
Bon.
On trouvera peut-être une manière d'ouvrir des perspectives là-dessus, mais nous vraiment on se concentre sur celle de novembre 31.
Tu étais réussi finalement, parce que l'hôtel de ville est pris.
Trois jours.
Ils arrachent leur
avec un drapeau.
C'est très paradoxal ce qui se passe. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est militairement réussie, peut-on dire, parce qu'on a une espèce de coalition entre la garde nationale de la Croix-Rousse qui se range du côté des Canus, qui met en déroute la garde nationale de Lyon, qui était celle des négociants. On a les chefs d'atelier qui s'organisent eux-mêmes en espèce d'armée paramilitaire. On a les volontaires du Rhône qui sont des républicains. On a un mélange un peu bordélique politique avec des gens qui sont royalistes, des gens qui sont républicains, des gens qui sont bonapartistes. Parfois les deux en même temps. Et ils finissent effectivement par remporter la ville, par tenir la ville, par chasser le pouvoir. Ils font brièvement prisonnier le préfet. Finalement, ils tiennent l'hôtel de ville.
Avec un drapeau, hein, c'est ça. Le fameux. C'est noir.
Un fameux drapeau noir.
De deuil en signe des.
Voilà, un drapeau noir de deuil et qui devient plus tard le drapeau de l'anarchisme.
Les Canucks ont été quand même assassinés par certains. Qui ont été tués à balles réelles, minoritairement, mais il y en a eu qui ont été tués en 31.
Ah, bien sûr. Bah,
des milliers, des centaines.
La garde nationale de Lyon, tout de l'ordre de la centaine, hein, c'est pas énorme. Ouais. La garde nationale de Lyon commence par tirer, sans sommation, tirer à bout portant sur les chefs d'atelier qui descendent sur la montée de la Grande Côte, donc tout près d'ici.
Et donc au terme des 3 jours. 3 jours, 4 jours, 3 jours.
Oh, c'est plus que ça, c'est presque plus une semaine. Hein.
Ah, d'accord.
Ils tiennent une semaine l'hôtel de ville. Et ils instaurent l'ordre, ils renégocient avec le préfet, ils tombent d'accord sur le tarif, les nouvelles règles, et ils partent se remettre au boulot. Et ils lâchent l'hôtel de ville en se disant on a gagné. Mmh. Évidemment, on a le duc d'Orléans qui arrive à Lyon, qui reprend la ville en main, qui ordonne à tous les membres de la garde nationale, Croix-Rousse comme Lyon, de venir admirer l'armée Place Bellecour, et qui fait emprisonner les meneurs des manifestations, qui revient sur toutes les... En gros, tout est perdu.
C'est-à-dire que c'est tricoté.
Oui, c'est assez fou. Hein.
Alors que c'était une pré-commune un peu, hein, comme de Paris, une pré-commune de Paris qui avait réussi.
Ouais, alors c'est moins...
Moins ambitieuse dans le
projet politique. C'est moins ambitieux,
politique,
c'est moins total mais... en fait. Hein, c'est vraiment des gens qui veulent travailler.
Voilà,
c'est des gens qui veulent travailler, ah ben, qui veulent pouvoir vivre de leur travail.
Il faut le citer, François.
Vivre en travaillant.
Ou mourir en combattant.
Voilà.
Oui, c'est vraiment des gens qui veulent travailler. Et c'est pour ça que c'est une... Alors, quand on dit ça, en fait, il y a évidemment plein d'autres choses qui se passent dans cette révolte. Donc on a ces chefs d'atelier qui sont... Il faut peut-être rappeler un tout petit peu comment ça marche, les Canus. On a des unités de production qui sont composés d'un chef d'atelier, c'est souvent des familles, un chef d'atelier qui a 1, 2, 3 ou 4 métiers à tisser, ces espèces d'énormes machines jacquard là,
qui doit rembourser, qu'il a acheté lui-même.
Voilà, qu'il a acheté lui-même.
Très haute, il faut
très haute,
des plafonds, très
haut, les plafonds.
À qui on doit donc l'architecture de Lyon, hein, parce qu'on vive à la Croix-Rousse, au Vieux-Lyon ou à la Guillotière, il n'est pas rare qu'on vive dans des immeubles qui sont ce qu'ils sont parce qu'ils abritaient autrefois des machines jacquard. Donc voilà. Et donc ça fait un bruit épouvantable. On vit à cet endroit-là. On fait travailler souvent son épouse, ses enfants. On a un apprenti ou pas, selon qu'on ait plusieurs machines. Et tout ça constitue une unité de production. Et des unités de production comme ça, il y en a plus de 8000 sur Lyon.
Ça fait du monde.
Ça fait du monde, oui. On a 8000. On dit qu'on est 8000 chefs d'atelier à Lyon. À peu près 20 000 apprentis, compagnons et apprentis. Et encore plein de métiers annexes. C'est quasiment toute l'agglomération qui vit de
les livreurs, les sous-traitants différents, etc.
Oui, puis plein de métiers parce qu'il faut monter les machines pour les femmes, voilà.
Les
plein de métiers féminins notamment, et donc toute une population féminine indépendante financièrement. C'est une chose qu'on aborde et qu'on explore dans le spectacle. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans la documentation d'époque.
Donc intéressant, également une résonance contemporaine.
Ah oui, complètement.
Une implication féminine, ça ne peut être.
Alors pour le coup, on la tire un petit peu plus. Un petit peu plus par les cheveux parce que Lyon a été le lieu d'un mouvement important qui s'appelle le mouvement ovaliste. Mais bien plus tard dans le siècle, en 1870.
Un MeToo, c'est ça de... Non, rien à voir.
Alors, non, mais une révolte menée par un corps de métier, les ovalistes, qui sont des femmes, et une révolte dont ils... Enfin, c'est pas tout à fait un anachronisme de dire que c'est déjà une révolte un peu féministe.
Des suffragettes, elles réclament quelque chose, c'est ça? C'est des droits?
Ouais, alors c'est plutôt sur le plan des droits sociaux que sur le plan des droits politiques.
Et en plus, le terme suffragette est peut-être un peu.
Mais en tout cas, il y a une conscience très forte de la condition féminine et une affirmation à cet égard. Alors, en 1831, c'est beaucoup moins le cas. Mais par contre, les ovalistes existent déjà, le métier existe déjà, et nous, ce qu'on veut, c'est... alors là, on fait un peu d'anachronisme assumé, il y a une dimension, il y a un des ateliers qui va porter sur les ovalistes, et on va essayer de leur trouver une place. On essaie de conserver vraiment... Ah, je parle pas assez dans le micro, apparemment. On essaie de conserver vraiment le déroulement des événements, mais on grève des choses qui nous permettent de faire théâtre, et puis parler des choses dont on a envie, évidemment. L'effort de reconstitution, il n'est pas absolument rigoureux. Par exemple, cette interruption au Grand Théâtre de Lyon n'a jamais existé. C'est une pure invention.
Un prétexte.
Mais alors, les ateliers concrètement correspondent à des tableaux ou pas tout à fait? Ils peuvent assurer plusieurs tableaux? Parce que, enfin, un tableau, c'est quoi? C'est une scène, c'est ça, plus ou moins?
Ou
c'est une scène qui peut durer quoi? 5, 10 minutes, un quart d'heure, qui peut avoir un temps avec changement de décor entre les.
Ce sera léger, changement de décor.
Et assuré donc par les. Assuré par les participantes, c'est ça?
Oui.
Et d'ailleurs, je me posais une question. C'est adressé au tout venant ou il faut présenter une forme de CV? Ou il faut. Faut être libre sur des journées? Demi-journée.
Alors, faut être libre. On a essayé de trouver des horaires et des dates d'ateliers très diverses pour pouvoir pour que tout le monde puisse un peu y participer. On a des choses qui sont en semaine, donc on imagine que vraisemblablement on aura plutôt des gens sans activité ou étudiants ou retraités, etc. Bon.
Beaucoup de retraités, il faut faire attention en termes de recrutement.
Oui.
Et les enfants auront besoin d'une autorisation parentale,
parce
qu'il faudra des enfants dans cette pièce, des enfants de Canu.
Alors, on aura de toute façon des lycéens, puisqu'on va travailler avec un lycée à Saint-Priest. Voilà, donc on aura des lycéens. Ça, c'est
le lycée Condorcet.
Tout à fait, ouais. Lycée Condorcet, où enseigne, j'en profite pour le dire, Sabine Collardet, qui est un des piliers du projet, qui est la conseillère scientifique, en quelque sorte, et qui est celle aussi qui est philosophe, et qui organise la série de conférences qu'on mène au Théâtre des Célestins autour du projet pour réfléchir un petit peu à ces enjeux. Donc on a une série de conférences qui vont toutes être, à mon avis, formidables. Et la première étant le 7 novembre.
On a Bernard Friot, c'est lui?
Non, c'est Bernard Friot en janvier.
C'est plus tard, voilà.
On invite Ludovic Frobert, qui est le monsieur Canu de Lyon, on pourrait dire, qui est un chercheur, c'est lui qui a mené tout le travail.
Il fait une post-faste inédite dans cette édition de la révolte, Les Révoltes des Canus, 31-34 de Fernand Rude.
Voilà, on invite Michel Rio-Sarcet et Alain Cotreau, qui sont deux historiens tout à fait passionnants. Bon, voilà. Toutes ces infos sont sur le site, hein.
On mettra tout ça en lien. Voilà.
Et alors, donc pour se présenter, donc pas forcément de CV ou de choses comme ça ou de compétences, il faut une sorte d'envie, quoi. Envie de participer à quelque chose qui va être assez enthousiasmant, assez fun, assez spécial.
Faut être libre. Donc on a des ateliers qui sont sur les week-ends ou en soirée, donc c'est quand même compatible avec une activité professionnelle. Alors les premières séances sont vraiment des séances de recherche et on veut rester ouvert à des personnes qui sont pas sûres d'oser aller sur scène à la fin. Qui se disent je vais voir, mais peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout. Il y a un moment donné où si on continue, c'est qu'on s'engage à aller jusqu'au bout, à monter sur scène. Mais au début, on est moins strict que ça. Et en fait, on a une manière de travailler qui est, je pense, suffisamment pas intimidante et conviviale pour que, j'espère, personne lâche. Mais enfin, on laisse ouverte la possibilité que les gens lâchent. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas des professionnels, évidemment. Pas des professionnels du spectacle vivant. C'est pas, c'est
Il n'y en aura pas du tout. Il n'y aura aucun acteur professionnel.
Ah si, si, si. Nous, on est une équipe. On est une équipe composée de comédiens et comédiennes qui sont les professionnels, qui sont les encadrants des ateliers.
Voilà.
En fait, les interprètes encadrants, je les appelle comme ça.
Les chefs d'atelier, quoi.
Ce sont eux qui portent les ateliers avec moi, qui anime les ateliers,
Arthur Fourcade, par exemple, pour l'atelier, je crois, jeu de rôle, c'est ça?
Oui.
C'est...
Et pas seulement. Il y en a d'autres aussi, oui. Arthur Fourcade, oui, qui jouait dans Olivier Masson.
Comédien, effectivement, fait Olivier Masson, c'était en janvier dernier. Moi, en novembre, deux mois avant, je l'avais vu interpréter. Don Juan au TNP, c'est très différent.
Il a des
enseignes pour Olivier Morin
très large, et il joue toujours avec Olivier Morin dans OVNI là au mois d'octobre au Tête de l'Élysée. Ça va être très très bien.
Donc plusieurs ateliers, je vous ai coupé, j'ai fait beaucoup.
Oui, ce que je disais.
Les encadrants,
enfin qui voilà, ils stimulent.
Voilà, mais ils sont aussi, mais ils jouent aussi dans le spectacle. Par exemple, je vous donne un exemple. L'atelier théâtre du 19e dont je vous parlais, donc l'idée c'est de figurer une troupe de théâtre du 19e, et la personne qui va animer l'atelier avec moi, Flora Souchier, elle joue par ailleurs une des comédiennes de la troupe en question. Donc comme ça ça lui permet de répéter, voilà. mais son rôle à elle, il va apparaître dans d'autres tableaux, c'est-à-dire que cette comédienne dans l'histoire, on va la voir apparaître dans d'autres tableaux, etc. Alors que les autres de la troupe n'apparaissent que dans les scènes où on voit la troupe. Vous voyez, c'est sur ce principe-là que ça fonctionne.
Oui.
Et ensuite, les encadrants d'atelier sont aussi les metteurs en scène de leurs tableaux. On est encore en mise en scène collective.
Ah, oui.
Donc à la fin, on va avoir un temps assez court d'ailleurs, où on va mettre ensemble tout ça.
Un filage, c'est ça.
Alors faut coller les morceaux.
C'est pas tout à fait un filage, mais on va tout mettre ensemble, voir si ça marche, voir si c'est voilà,
le rythme,
faire des coupes à droite à gauche, etc. Mais les éléments de base auront été élaborés en atelier par des interprètes encadrants qui sont les metteurs en scène de leur tableau.
Voilà. Et qui en amont aussi font pas mal de recherches documentaires et autres pour.
Tout à fait.
Pour alimenter
pour
les ateliers,
ouais.
Et nourrir le propos.
Vous avez un regard, vous, Marie-Évreux, un peu sur ces ateliers eux-mêmes dans le détail, ou sur une forme générale peut-être de... Est-ce que ça correspond bien à ce que l'opéra souhaitait, ou même de manière générale? Enfin, je sais pas.
Ça correspond à ce qu'on souhaitait, dans la mesure où, justement, je pense, dans la forme, pour cette seconde saison, on s'est bousculé un peu, et c'est ce qu'on souhaitait. Je pense qu'on a fait une première saison d'atelier qui n'était pas tournée, qui n'était pas tendue vers le spectacle. Où on a pu déjà se rencontrer et rencontrer les gens avec qui nous on travaille généralement sur ce type d'atelier, qui sont très divers, mais on a des compagnons de route, des gens qui peuvent travailler dans des lycées, qui peuvent travailler dans des structures d'insertion socio-professionnelle, qui donnent des cours de FLE, de français langue étrangère, qui travaillent dans des prisons, dans des hôpitaux, etc., avec qui on bosse régulièrement. Donc la première année, les ateliers, on a commencé à travailler sur la thématique, mais à se rencontrer et à voir comment nous on travaillait, comment le collectif, les membres du collectif X travaillaient. Il n'y a pas eu de, enfin, je crois pas que j'ai eu besoin d'avoir un regard vraiment sur ce qui s'y passait. Enfin, je vais régulièrement voir les ateliers, mais
concrètement,
il y a déjà des inscrits alors.
Oui, alors, c'était peut-être pour les premiers ateliers, pas ceux qui visent au spectacle.
Mais du coup, pour cette année, on a repéré des groupes avec qui on veut travailler. Mais pour chaque atelier, chaque tableau, donc il y a pour chaque tableau une série d'ateliers. Pour chaque série d'ateliers, quand on a déjà un ou plusieurs groupes repérés avec qui on veut travailler, on a quand même laissé de la place aussi pour des individus.
À titre particulier, personnel,
pour s'inscrire.
Peut-être je peux vous donner quelques exemples d'ateliers pour que ce soit plus concret. Vous me demandiez où les ateliers se tenaient, ça dépend vraiment des ateliers. On essaye de faire en sorte que chaque atelier passe par l'opéra. C'est une sorte de point fixe, donc qu'il y ait un moment où on est au grand studio du ballet de l'opéra, donc sous les toits là, où.
Ça pose le. c'est bien là.
Alors ce ne sera pas le cas de tous, malheureusement.
Oui, mais
il y a des fois où on est dans les sous-sols, mais bon, on est quand même à l'opéra, dans les sous-sols. C'est les salles de répétition.
Je peux pas, j'ai répétition, là je vais à l'opéra.
c'est important, c'est aussi le symbole.
C'est un sens, exactement, ouais, oui, c'est quand même riche.
Et donc. Alors, on a ce fameux atelier sur le théâtre du 19e qu'on fait en lien aussi avec une professeure de l'ENS qui est spécialiste de la question. On a un atelier sur la question des prud'hommes, les conseils prud'homaux de l'époque, c'est un enjeu très important. Il y a une scène qui va constituer un tableau, presque une sorte de petite pièce autonome où on va assister à des conseils prud'homaux entre des chefs d'atelier et des négociants, et pour lequel on travaille avec Géraldine Favre qui l'encadre et qui va amener ses
juristes.
Non, mais qui est comédienne et qui a travaillé, qui a déjà rencontré des conseillers prud'hommes d'aujourd'hui, puisque l'idée c'est aussi de s'inspirer des enjeux des prud'hommes d'aujourd'hui. On a un atelier pour faire émerger la figure des négociants. On a un atelier autour des ovalistes dont je vous parlais là, qu'on co-organise avec une association de Lyon 2 qui s'appelle
L'Envolée
culturelle.
Ah, culturelle avec un truc peut-être ça. Culture-E2LE.
Non, eh bien c'est... Non.
Même pas.
Mais c'est des filles que moi je dis que c'est des filles parce qu'en fait il y a que des filles dans cette association. Mais je crois pas que ce soit fait exprès. Mais je trouve que c'est comme ça. Et je les ai rencontrées parce que la plupart d'entre elles étaient ouvreuses au Célestin et on avait un peu sympathisé pendant qu'on faisait Olivier Masson là-bas. Et elles sont vraiment elles sont super, elles co-organisent avec nous, mais l'idée c'est de faire venir aussi dans cet atelier non pas que des personnes la session des étudiants tout assez mobilisées sur les enjeux du féminisme aujourd'hui, et l'idée c'est d'aussi mélanger avec des personnes qui ont un autre profil. Donc par exemple on sollicite le centre
d'information de droits des femmes et des familles,
voilà, le centre
avec qui on a déjà travaillé sur d'autres projets et...
Pour avoir des... Je vous écoute là, je me dis, Marie, François, vous rejoignez totalement là-dedans. C'est, vous avez l'idée, vous souhaitez une ouverture qui soit maximale. C'est pas forcément des, je sais pas comment nommer ça, des niches ou des structures déjà préexistantes. Vous aimeriez vraiment recruter sur tout le territoire lyonnais, voire même en dehors de Lyon, en région. D'ailleurs, le spectacle voyagera-t-il peut-être un petit peu? Non, dans un premier temps, Tête de la Renaissance. Et donc, vous avez cette envie de recrutement ouvert vraiment à tous, toutes. Pas d'âge forcément, pas de choses.
On se bouscule un peu parce qu'en général, on travaille avec des groupes constitués sur ces projets-là et ils se rencontrent souvent à la fin, au moment où on met en forme le spectacle et les différents tableaux. Et là, on a voulu, dès la conception des ateliers, pouvoir déjà faire dialoguer, se rencontrer des gens qui ont des points de vue différents sur une même situation, sur des mêmes questionnements. Oui.
Avoir des compositions d'ateliers qui soient déjà une richesse en soi. Mmh. Par exemple, on fait un atelier qui est l'expression politique, qui va être un atelier assez transversal au projet, sur lequel beaucoup d'interprètes encadrants vont passer, qui va se tenir tous les premiers mardis du mois à l'Opéra. Et par exemple, on bosse en lien avec le CE d'EDF. Donc des salariés d'EDF qui vont venir avec nous. On essaye de construire quelque chose avec la CGT précaire. Voilà, on essaye d'avoir une mobilisation assez large.
Et est-ce que vous avez alors oui, c'est l'arrivée théâtrale de Pascal pour Blouse des Canuts qui va commencer dans quelques petites minutes. On s'était dit qu'on chercherait à bien terminer à 15h aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va réussir à faire. Est-ce que vous avez annoncé tous les premiers mardis du mois? Donc je suppose que le premier mardi, alors ça va commencer, je crois que c'est un jeudi 1er octobre, donc le premier mardi ce sera
alors,
le
non,
5
ça, ça
de la semaine d'après ou c'est un peu plus tard?
En l'occurrence celui-là ça commence en novembre, encore une fois ces ateliers là c'est sur inscription, c'est-à-dire que bien comprendre avant qu'on termine, peut-être il y a vraiment des rendez-vous publics qui sont des moments où on va partager un peu le travail. Alors, en cours.
Comment les trouver? On peut voir ce samedi 26 septembre, on peut vous rencontrer, mais c'est pour une dédicace, pour autre chose.
Alors, ce samedi-là, moi, je fais une dédicace de mon bouquin là, qui est sorti à la rentrée, mais au Célestin. Mais non, sinon, au Célestin aussi, il y a ces fameuses conférences. La première date, c'est le 7 novembre à 15h.
Et vous serez présent à ces conférences? On pourra vous rencontrer.
Oui. Et à chaque fois, on fera une petite introduction pour réexpliquer dans quel projet plus large ces conférences s'inscrivent, à quoi elles nous servent, nous, pour construire le projet, pour nourrir l'écriture. Et ce sera aussi un moment de rencontre. Voilà. Donc ça, c'est ces moments publics, c'est ces cinq conférences dans l'année. Mais vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent et que le projet intéresse, il faut qu'ils aillent voir sur le site, parce qu'en fait, tous les ateliers que j'évoque là sont tous décrits individuellement, séparément, avec à chaque fois les enjeux qu'ils proposent, les lieux et les dates, et une possibilité de s'inscrire. Et on tient beaucoup au fait d'aller chercher nous pour chaque... t'aimes pas qu'on dise aller chercher toi,
ouais,
d'aller, de mobiliser nous
de rencontrer
voilà, pour les ateliers via des structures, mais aussi de permettre à des gens de venir sur leur propre initiative, parce qu'on se dit que c'est grâce à ça qu'on va avoir des ateliers joliment composés, quoi,
avec divers, vraiment des variés,
que déjà dès le premier jour constater qui on est et débattre entre nous des questions de fond que soulève l'atelier, c'est déjà un voyage, c'est déjà...
Donc les coordonnées, les références, c'est le site.
Voilà.
Écho
avec un S
de la fabrique, tout accroché.
Oui.
Point net.
Voilà.
Donc c'est vraiment, il n'y a pas de numéro de mobile ou de courrier électronique ou quoi que ce soit, ou de lieu.
Sur chaque page d'atelier, il y a un lien cliquable où c'est marqué... demander à participer, je crois, oui. Participer à l'atelier. Et ça renvoie automatiquement le mail à Julien Nini et Karine Chiez, qui travaillent pour le projet et qui. Voilà.
Gérald.
Pour conclure, il nous reste une deux minutes.
Secondes,
ah non,
secondes,
deux minutes. On n'a pas fait d'annonce. J'avais des annonces à faire qui sont très importantes.
Bah,
on pourrait résumer les dimensions.
François, puis on va manger sur l'émission.
On résume les dimensions. Il y a cinq dimensions dans ce spectacle très importante. Une dimension pratique de la lutte. Comment organise-t-on la solidarité entre les travailleurs? Par qui la fait-on gérer? Doit-on se doter d'institutions représentatives? Doit-on déléguer à certaines personnes la parole du groupe? Ça se tient du stage syndical quasiment. Dimension pratique s'ajoute une dimension politique. Après quelques jours de lutte, les CANU ont élargi leur réflexion et se sont mis à réfléchir au régime de gouvernement qui leur semblait souhaitable. C'est une évolution que l'on pourrait rapprocher de celle des Gilets jaunes. Partie d'une fronde antifiscaliste, ils en sont rapidement venus à des revendications constitutionnelles, le RIC et compagnie. Troisième dimension pourrait s'intituler vitaliste. Que vivent des corps et des esprits engagés dans une telle lutte? Là, c'est le corps théâtre et le corps expressif. En filmant la révolution égyptienne, Dixit, notre invité. Voici bientôt 10 ans, j'avais été frappé par l'énergie qui se dégageait des manifestants, leur joie, leur effarement aussi, comme s'ils étaient éberlués de la force dont ils se révélaient capables. Ces derniers temps, les Biélorusses semblent vivre une pareille épiphanie, mais ils en prennent plein la gueule. Il se passe quelque chose quand les individus sortent de leur solitude et se découvrent ensemble une puissance que pas un n'aurait soupçonné. Je voudrais que la pièce donne à ressentir une telle métamorphose collective. C'est le théâtre, dans la lutte qui devient une lutte théâtrale finalement.
Et ta dernière dimension?
Quatrième dimension, l'expression dont on parlait au début d'émission. Comment des groupes en lutte se racontent-ils eux-mêmes? Notre pièce Écho de la Fabrique tire son nom du journal que les Canus ont tenu entre 31 et 35, où ils chroniquaient de l'intérieur leur lutte et leurs espoirs. La pièce s'efforcera de n'être pas écrite de l'extérieur, mais de sembler émaner de ses personnages. C'est pour cela que le travail participatif ou coopératif est essentiel et que nous travaillons à constituer des groupes hétérogènes. Dernière dimension fondamentale, de quelle société possible le groupe soulevé est-il lui-même l'image? Cette question importante en soulève bien d'autres, celle de la distribution de la parole, de la question du genre, de celle des minorités, du pouvoir, de la domination, de l'ascendant de certains sur d'autres. Dans quelle mesure ces questions peuvent-elles paralyser l'action? Cette dimension, nous la thématiserons à l'intérieur de la pièce, mais nous essayerons aussi de la faire vivre sur un mode méta-théâtralo-politique, dont la façon dont le projet est mené, dont les ateliers se déroulent eux-mêmes.
Un spectacle total, hein, et il y aura même de la musique.
C'est ça.
Tout à fait.
C'est du théâtre.
Mené par Martin Sef, qui sera notre chef de chœur. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler de la musique, mais effectivement, la musique est une des dimensions du projet.
Ah, bah, une fresque.
Mais la musique, alors, faut oublier le côté opéra. Pardonne-moi.
Ah oui,
pas la musique dans le sens opéra, plutôt la musique dans le sens école de musique de quartier. Comment est-ce que.
Harmonie
dans le sens harmonie communale. Voilà. Comment est-ce qu'on prend plaisir à jouer ensemble et à trouver beau ce qu'on fait ensemble, en s'efforçant de le faire bien, mais sans.
Et ça peut être costume, aussi l'opéra. Lumière. L'opéra, c'est pas que.
Oui, bien sûr, excuse-moi.
Ah non, c'est très bien.
Que les fournisseurs de locaux et de budget.
Il y a l'amphi. Il y a sous l'amphi, ouais, sous la scène principale, il y a toute une programmation. Il faudra qu'on. François Poster, c'est terminé. Un autre a été nommé il y a
Olivier
quoi un an
c'est terminé. Olivier est parti. En 3 ans, il a refabriqué un opéra underground à la place de l'amphi opéra. Et il vient de laisser sa place à Richard Robert, qui arrive des nuits de Fourvière.
On pourra le recevoir, Marie. On verra ça avec Chloé. On s'en occupera.
Ça me permet de dire. Donc,
François, vous avez encore la parole. Pascal, on te mange quelques minutes, c'est pas très grave.
Non, juste samedi, 18h30, au Célestin. Autour du bouquin.
C'est
et la semaine prochaine, il y a une lecture le 1er octobre, le jeudi soir, au théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, une lecture d'un nouveau texte que j'ai écrit. Donc les infos sont sur le site de l'Harmonie Communale pour le coup.
Je mettrai ça sur le blog aussi, ouais. Spectaculaire. François-Marie, on vous remercie
merci
parce que nous, avant la tempête,
merci
on s'était évoqué ça. Oui. Ça a l'air d'être un spectacle quand même.
Très dense.
D'une richesse assez énorme. Et le fait qu'il y ait les compagnonnages célestins au opéra, je le redis encore une fois quand même, c'est un gage de qualité. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Le théâtre amateur est magnifique, c'est très bien. Mais enfin, voilà, ça va être un truc sérieux, bon, bien, enthousiasmant, réjouissant. Merci François.
Merci à vous.
C'est
On se reverra peut-être d'ici le mois de mai pour la Renaissance.
Yes.
On vous laisse partir.
Merci.
Nous,
merci.
Tu as quelques annonces pour.
Oui,
pour
alors on est en retard, mais c'est pas grave. Pascal nous. Pardonnera. Oui, il fallait absolument que je vous parle de cette biennale Avant la Tempête qui se déroule parallèlement dans différents lieux, à Saint-Cyr, au Mont-d'Or, à l'Estanco, dans une galerie, à l'Œil Écoute en ce moment encore, pour quelques jours jusqu'au 4 octobre. Et nous avons surtout une biennale avec 30 artistes qui vont exposer. Alors c'est à la campagne, il faut être véhiculé, faire du covoiturage. C'est à la Bâtille, à Saint-Laurent-d'Agny. Nous recevrons d'ailleurs la semaine prochaine le commissaire des expositions de cette grande biennale Avant la Tempête, Philippe Tardy, qui était déjà venu, hein, graveur très connu dans le coin. Il y a des peintures, des sculptures, des gravures, des photographies, des installations, des performances. Alors à cause de la pandémie, certaines dates ont été modifiées. Ce ne sera pas un vernissage vraiment, mais un week-end porte ouverte. Vous pouvez y aller le samedi et dimanche entre 10h et 13h et 15h et 19h. Il y aura un spectacle dès le vendredi soir et le jeudi soir, un spectacle de clown. Je mettrai toutes les informations sur notre blog. Donc l'espace s'appelle l'espace Labatie. C'est 549 route de Mornan, après Morna, entre Orliena et Morna. Vous passez par Saint-Genis-Laval, Oulin, etc. Brignais, après Brignais. Je vais vous nommer la liste des 30 artistes donc exposés. Donc il y aura Maher Albaroudi, Patrick Bax, Paul Béranger, Gérald Bortolesi, Anne Bréhéro, Pierrette Burtin-Serraille, Christophe Chéron, Marie-France Chevalier, Collectif 6, Michel Costa, Frédéric Denis, Véronique Devignon, Gilles Duménil, Vanessa Durantet, Valérie Gaveau, Raphaël Gonin, Gilbert Houbre, Dominique Lechec, Christian Lignet, Anne Mangeau, Gérard Maty, Michel Narcet, Eleni Patacou, Jean-Michel Pirollet, Alain Pouyel, Louis Serrore, Philippe Tardy, Marie-Claire Thomas, Marie-Hélène Tolon et Veslin Vassilev. Un spectacle inaugural, donc les clowns dans la tourmente, le 25 septembre, le jeudi à 20h. Et nous aurons aussi une installation sonore. Voilà, donc la semaine prochaine, nous reparlerons en détail de cette biennale. Mais vous pouvez, dès ce week-end, vous y rendre. C'est à 20-25 km de Lyon, après Brignais, donc la Batille, avant la tempête. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Plus précisément, la parole.
Tu as bien évoqué
à Christophe.
L'œil écoute.
Bien sûr, il y a aussi la galerie L'œil écoute en quai de Saône, quai Roland, où il va y avoir des nouvelles expositions. Et il y a trois artistes en ce moment qui exposent aussi.
Ah, il y a un magnifique G, c'est prodigieux aussi, très beau, très bien ce qu'il fait.
Et la semaine prochaine, donc Philippe Tardy, peut-être Jean Fleury, peut-être des artistes de cette exposition qui viendront, la liste n'est pas close.
J'ai lancé Tricky. Pourquoi est-ce que j'ai mis Tricky? Parce qu'il est sur la bande son des Arocs qui est sortie actuellement. Et puis Tricky sera à Lyon prochainement. Et Tricky, pareil, je crois, à Paris, il fait des trucs un peu. Des trucs participatifs, des trucs avec du local. Mon Dieu, 15h06. Pascal, promis, Blues et Canus. On laisse le générique, qui est absolument formidable, de Gilbert Lafaye. Gérald, à la semaine prochaine. Et à la semaine suivante, peut-être Philippe Torreton pour la semaine suivante, début octobre, pour La Vie de Galilée, qui est donnée. Ouais, on devait l'avoir l'année dernière. On aurait pu. Si, ça ira cette année. Petite auditrice, reste à l'écoute du programme de Radio Canus. Ça a un peu changé. Je ne peux plus annoncer, on n'arrête pas le prog. L'émission a cessé. En revanche, Blues des Canus, c'est dans 5 secondes. Mayday, a priori à 18h aussi. Et à 19h, le Canu Info. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canus. Et puis, suivez l'écho de la fabrique. Il y a des choses très intéressantes qui se passent. C'est lyonnais, c'est local, c'est bien. Mais c'est pas que local, ni que lyonnais. Auditeur, auditrice, au revoir tout le monde. Ciao. Bye, salut.